Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je t'ai déjà résisté si souvent, j'avais tellement peur, mais maintenant je peux m'approcher le cœur confiant. Tu es mon père, je suis ton enfant. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Viens m'emporter dans ce torrent d'amour. Je veux sentir tes bras qui m'entourent, je veux plonger mon cœur dans le tien. Tu es mon Dieu, je t'appartiens. Je t'appartiens.
Donc juste avant qu'un Claude nous fasse les lectures, un petit rappel, cet été, on était dans le livre des Actes. On est resté un peu dans ce livre depuis la reprise, ce mois de septembre. Et puis, il y a dans les Actes une phrase, je crois, qu'on ne peut pas ne pas voir quand on visite les différents lieux à Césarée, à Philippe, à Corinthe. Il y a une phrase qui revient. Et c'est sur cette phrase que j'aimerais m'arrêter ce matin, « Toi et ta maison ». Alors, on va visiter avec un Claude, Césarée, Philippe et Corinthe dans quatre petites lectures brèves.
Alors, dans Actes 11, les versets 11 à 14, « Et voici, aussitôt, trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. » L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait « Envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ensuite, dans Actes 16, les versets 13 à 15.
Maintenant, on est à Philippe.
Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Il y a aussi toujours Actes 16, les versets 30 à 34. « Mais Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils les prirent avec lui à cette heure même de la nuit, lava leur plaie, et aussitôt ils furent baptisés, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Ensuite, dans Actes 18, les versets 7 et 8, il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu du nom de Titus Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés.
La famille, personne ne prétend que c'est facile. Et plus la famille grandit, plus ça devient compliqué. On n'est qu'à l'étape un beau-fils, pas de petits-enfants. La famille ne va pas tout seul, mais la famille, c'est l'idée de Dieu. Et en fait, c'est le lieu où ça se passe, la transmission de l'amour. Et c'est le lieu, je crois, que le Seigneur désire où soit transmis aussi la connaissance de lui, de son amour à lui. Je rappelle, il y a une année de ça, vous me dites, mais je ne me rappelle même pas du message de dimanche dernier, mais une année de ça, on a abordé la question de la famille. Dans les Proverbes, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et puis, deuxième message, où on a vu qu'en fait, tous les enfants dans la famille de Dieu sont des enfants prodigues. Donc, la famille, on veut y revenir aujourd'hui dans l'absence de nos enfants qui sont partis loin. Je vais proposer une définition de la famille. J'aimerais qu'on regarde la famille dans l'Ancien Testament pour ensuite arriver dans le Nouveau Testament. Et puis, j'aimerais qu'on voit comment la famille fonctionne. J'ai jeté un coup d'œil dans ce livre que j'ai pas lu, La famille, une idée divine. Et puis, j'ai vu dans la table des matières, il y a les 10 commandements pratique pour le mari, l'épouse, les parents. Bien sûr, comme tous les mâles ici présents, je suis allé directement regarder dans les 10 commandements pour les épouses. Et puis, on verra dans la partie pratique qu'est-ce qui pourrait être proposé si on a le temps. D'abord, quelques définitions concernant la famille. Dictionnaire Larousse, ensemble des individus vivants ou morts, liés par un lien de parenté. Ensemble constitué du père, de la mère et des enfants. Toutes les personnes d'un même sang. Ou encore un groupe d'êtres ou de choses présentant des caractères communs. Voilà, et puis selon la Bible, la famille n'est pas qu'une unité sociale, une institution sociale créée par les hommes. Selon la Bible, la famille est une structure créationnelle, comme on dit, qui Dieu les créa mâle et femelle. Et il les a dit, il les a bénis, soyez féconds, multipliez. En fait, la famille, selon la Bible, s'enracine dans la famille céleste, où il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Et Paul peut prier, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille sur la terre tire son nom. Donc, dans cette optique, tout comme on entre dans une alliance avec ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, on entre en relation par une alliance reconnue publiquement. Donc, ça, c'est dans l'Ancien Testament, la circoncision. Dans le Nouveau Testament, scellé par le signe du baptême. Ainsi, dans le mariage, dans la famille, l'acte fondateur de la famille, c'est le mariage. Et ensuite, si vous me suivez toujours, selon Bonhoeffer, théologien allemand, la famille devient ainsi le lieu où Dieu, je cite, « fait participer les hommes et les femmes à son acte créateur continu ». Comme nous le savons tous, la famille, comme on dit, nucléaire, traditionnelle, est aujourd'hui sous d'énormes pressions. Il y a toute une diversité de modèles qui sont proposés aujourd'hui pour la famille. Le mariage est en cours d'être redéfini, la parentalité également. La pratique de la sexualité en dehors du cadre mariage est banalisée. Le rôle père-mère est mis en question, affaibli. On peut dire qu'il y a beaucoup de confusion et ce n'est pas chose facile, la famille, aujourd'hui. Pour les uns, ces évolutions, c'est des contraintes démodées qui ont été finalement écartées. C'est la disparition des discriminations. La liberté et l'amour y auraient gagné. Pour les autres, c'est des renversements des fondements. Et on se prépare à la désintégration de la société telle que nous la connaissons. Qu'est-ce que la Bible nous montre à ce sujet ? Donc, je propose un passage très rapide dans l'Ancien Testament. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a pu dire cela. Effectivement, dans l'Ancien Testament, quand on parle de la famille, littéralement, en hébreu, ça veut dire la famille, une maison. Donc, quand on parle de fonder une famille, ça se dit construire une maison. Et quand Dieu veut fonder une famille, si vous reprenez les chants de ce matin, combien de fois il s'agissait de la maison du Seigneur, sa famille. Quand Dieu veut fonder une famille, il choisit un homme, Abraham, et fait alliance avec lui. Vous avez le récit dans Genèse 17, et c'est une alliance qui va être signée, scellée par un signe, la circoncision. Tous les mâles nés ou non dans sa maison, toute la maisonnée est concernée. Et ensuite, la famille sera la pierre angulaire de cette construction divine, Dieu qui veut se construire une maison. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ces sanctions tellement sévères contre tout ce qui affaiblit cette unité familiale. Extrêmement sévère, ça nous choque aujourd'hui, et c'est à comprendre, bien sûr, dans un sens d'un effet dissuasif. Mais ça s'explique par le fait que si les fondements sont ébranlés, tout l'édifice social s'écroulera. Donc, dans l'Ancien Testament, la famille, c'est une institution qui structure la vie de la foi. Et c'est comme ça que Josué dira, vous, vous choisissez qui vous voulez servir, les dieux que vos pères ont adorés de l'autre côté du fleuve. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous vous souvenez dans le cas de Noé avant, quand il construisait l'arche, c'est précisé en Hébreux 11, c'est en vue du salut de sa famille. Hébreux 11, 7. Et à travers toutes les pages de l'Ancien Testament, à partir de Genèse, 10 fois, voici la postérité de, la famille de. Dieu se montre extrêmement patient et très persévérant envers la construction des familles, fondée sur une alliance entre lui, l'image et l'époux, et nous, l'image et l'épouse. Voilà pour l'Ancien Testament. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Les temps ont changé et on arrive du temps de la venue de Jésus sur la terre. Et on constate à cette époque-là des liens familiaux comme sous l'Ancien Testament. Par exemple, la semaine passée, si vous étiez présent, vous étiez avec moi visiter Zachée et sa maison. Jésus a dit, « Zachée, il faut que tu descends de cet arbre parce que je désire venir habiter dans ta maison. » Et Martine a relevé, en fait, qu'il avait de la chance, il y avait les serviteurs qui s'affairaient à fournir le repas, mais la venue de Jésus touchait toute la maison. Ce serait la même chose avec ce haut fonctionnaire qui envoie chercher Jésus, « Mon fils est malade ». Jésus l'accompagne à Capernaum, vous avez le récit en Jean 4, et Jésus guérit son fils, et donc lui, cet homme va croire, lui et toute sa famille. Donc, confesser que Jésus est Seigneur a des retombées sur la vie de toute l'unité familiale. Donc, on peut voir quelque part dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, un prolongement du modèle inclusif, si je peux le dire ainsi, de l'Alliance qui était en vigueur en Israël déjà. Quand un chef de famille découvre le Seigneur Jésus, toute sa maison se trouvait concernée. Parce que une famille dans le monde gréco-romain restait une unité sociale de base. Et je cite, « Une même identité économique, administrative et religieuse reliait toutes les personnes appartenant à la maisonnée. » Et c'est ainsi qu'on arrive dans les Actes des Apôtres chez Corneille, sa crainte de Dieu et sa conversion à Jésus-Christ. Il convoque toute la famille pour venir écouter Pierre et l'Esprit tombe sur toute la maisonnée. Chez Lydie, qui est le chef de la famille, elle a là, pour cette réunion de prière au bord de la rivière. Et puis, elle sera baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Les geôliers romains également. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et tous les tiens. Et Crispus, lui, juif, chef de la synagogue, a cru avec toute sa famille. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que on a à l'esprit tous, ou peut-être, des paroles qu'on entend de l'Évangile. Mais je crois que c'est dans la lumière de ce contexte, de cette solidarité, qu'il faut situer ces paroles. Si on n'est pas père et mère. Ça veut dire Jésus nous invite à une autre priorité. Plus la solidarité familiale, mais on ne doit pas préférer mère et père que d'entrer dans la nouvelle famille qu'il nous propose, la famille de Dieu. Quand on vient lui dire, il est très occupé, Jésus, il y a là devant la porte ta mère, tes frères, tes sœurs. Jésus, à Jésus de répondre, mais qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs? C'est ceux qui entendent ma parole et la pratiquent. Donc, Jésus vient et il ouvre la porte à une nouvelle maisonnée. Et où il y a une allégeance prioritaire, celui d'un disciple de Jésus. Donc, si on se trouve dans une maisonnée hostile à cette bonne nouvelle, qui résiste à cette invitation, le membre qui est devenu chrétien peut se trouver exclu, entraînant même la perte d'identité, de sécurité en tout cas, mais il découvre une famille de substitution. Dieu devient son père, Jésus son grand frère, et l'Église est appelée la maison de Dieu, 1 Timothée 3. Et celui qui quitte père et mère à cause de moi et l'Évangile trouvera au centuple père, mère, frère et sœur. Un lieu de nouvelle solidarité prioritaire. Alors ça c'est pour la théorie et maintenant pour la pratique. Comment, on connaît tous la pub de Foust et ça fonctionne. La famille, c'est pas si simple que ça fonctionne. Donc j'ai regardé les 10 commandements pratiques pour un mari. Dominique n'est pas là, donc je peux les dire. Soyez ordonnés et propre. Vous n'allez pas forcément être d'accord avec tous ces commandements, mais moi je trouve que la preuve incontournable contre la théorie du genre serait de visiter deux maisons, l'une occupée par des étudiants mâles et l'autre occupée par des étudiants femelles. Et puis, donc, la théorie du genre où on est tous pareils disparaît dans un coup d'œil. Soyez courtois à l'intérieur et au dehors de la maison. Faire la cour à votre femme ne devrait jamais se terminer. Les petits cadeaux comptent. Chaque femme aime qu'on se souvienne d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire pour la famille? On dit que si vous voulez aimer vos enfants, aimez votre épouse. Montrez souvent votre appréciation. Complimentez votre femme. J'ai dit, Dominique n'est pas là, donc je peux lire toutes ces choses. Sortez avec votre femme régulièrement. Soyez compréhensif. Écoutez les conseils de votre femme. Acceptez ses suggestions. Commencez un culte personnel régulier avec votre femme. Nous sommes à une fois par semaine. Rappelez-vous, messieurs, d'être romantiques. Communiquez vos pensées et vos désirs à votre femme. Soyez ouverts en toutes circonstances. Hier, on était quelques-uns allés à la journée de portes ouvertes à Yverdon. Et il y avait une exposition, les Huguenots d'hier et d'aujourd'hui. Et il donnait l'exemple d'un couple en Afghanistan où le monsieur s'est converti en secret et sa femme s'est convertie en secret. Et par crainte d'être dénoncé pendant 14 mois, ni l'un ni l'autre a su que l'autre était devenu chrétien. Alors en Suisse, ça ne devait pas se passer ainsi. Soyez ouverts. Alors les 10 commandements pratiques pour une épouse. Voilà. Ou est-ce que je ne dois pas les dire et attendre que Dominique soit là? Parce que je ne l'ai pas lu. Hein. Ne cherchez pas à manipuler votre mari. Ayez une apparence soignée et attirante. Exprimez vos sentiments et vos soucis de manière respectueuse. Soutenez et encouragez votre mari dans la prière. Que votre discours soit plein de grâce. Ça, c'est bon pour nous tous. Hein. Cherchez à créer une atmosphère paisible dans votre maison. Recherchez toujours les meilleurs côtés de votre mari. Ça m'a rappelé mon histoire préférée que je lisais aux enfants quand ils étaient petits. Roald Dahl, oui. Il a écrit... En anglais, c'est Fantastic Mr. Fox, le fantastique Monsieur Renard. Et pourquoi j'aimais lire cette histoire à mes enfants? Parce que Dominique était là. Et Monsieur Renard avait une femme qui l'admirait. C'est parce que quand il partait voler des poules à la ferme de Bunce, qui était vraiment très désagréable comme agriculteur. Mais qu'est-ce qu'elle admirait son mari, M. Renard. Mon histoire préférée. Point 8. Soyez sage dans votre manière de gérer l'argent. Une chose terrible que j'ai entendue, mais véridique, quelqu'un qui a dit de sa femme en sa présence, ça dépense trop. Imaginez ça. Alors, après tout ça, avant-dernier commandement, soyez détendue et affectueuse. Servez votre mari et votre famille dans l'amour de Jésus. Alors, pour nous tous, les parents, on est bon parce que les enfants sont en France voisine, là-bas. Pour les parents, paraît-il un proverbe africain, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Peut-être on pourrait adapter cela, il faut toute une église pour éduquer un enfant. Aimez vos enfants. Combien ont été touchés de voir à la fois l'amour de la nounou et la dureté de la maman. Aimez vos enfants. Soyez un exemple constant pour vos enfants. On sait que ça, c'est l'idéal. Formez et instruisez vos enfants. Construisez de solides relations dans votre famille. Ça peut être les anniversaires qu'on marque, les fêtes. Et quel rôle important pour les grands-parents? Jouer, ça c'est la partie peut-être plus facile, et prier avec vos enfants. Et une bonne écoute et communiquer chaque jour avec chaque enfant. C'est un travail à plein temps. Partagez avec votre famille les joies et les rires. Il y avait un prof à Vaux-sur-Seine dont le nom m'échappe, mais il a raconté qu'un voisin lui a dit « On sait quand vos enfants vous rendent visite dans la maison familiale parce qu'on entend rire dans la maison. » Étudiez le développement de chaque enfant, traitez vos enfants avec égalité. Passez du temps avec vos enfants. Dixième, corrigez vos enfants. Alors ça, bien sûr, avec mesure et attention à certaines littératures qui peut-être à proscrire dans certaines recommandations de trop de sévérité. On peut dire aussi, peut-être, il y a trop de laisser aller également. Donc, un grand défi. En conclusion, courage. Dieu lui-même est père de famille. La famille, c'est son idée. Et il nous invite dans sa famille de trouver notre identité. Nous sommes précieux, importants. Dieu a déversé ça et déversera sa bénédiction parce qu'il a fait alliance avec nous. Il nous a aimés, comme nous avons entendu. Il nous a appelés dans sa famille, sa maison, et ses projets ne s'arrêtent pas là. Il sait donner de bonnes choses à ses enfants et il voit notre souci pour l'ensemble de notre maisonnée. Oui, il y a des épreuves, mais les épreuves peuvent être là pour nous aider à remettre Dieu au centre de nos foyers. Et la Bible dit que de par les épreuves, il nous traite comme ses enfants. Le bien de nos familles, ce n'est pas une absence d'ennui, un minimum de désagrément, mais c'est découvrir l'amour de Dieu et le transmettre aux générations futures. Dans ce domaine de construction familiale, nous sommes donc co-ouvriers avec Dieu qui, lui, construit sa maison. Ça veut dire qu'on n'est pas seul dans la construction de nos maisonnées, de nos familles. Ce qui veut dire que nos prières comptent tout autant, sinon plus, que tous nos efforts. Et c'est la grande possibilité de rattraper nos erreurs. Dieu s'est engagé en faveur de la famille. Donc, la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il y a de l'avenir pour nos familles. Amen.